Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour, bon réveil à vous. Nous sommes le samedi 2 octobre. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour notre matinale week-end CNews Europe 1 avec tout pour vous informer, nos invités, nos rendez-vous, sciences, culture et santé. Sans oublier, bien sûr, la météo de votre week-end, ça ne s'annonce pas franchement glorieux aujourd'hui. Vous faites bien de rester au chaud le plus longtemps possible avec nous. On va se réveiller bien informé et de bonne humeur. On est ensemble pour deux heures d'infos en direct, en compagnie d'Elisa Lukewski pour nos JT. Bonjour Elisa. Juste après votre journal, Elisa, on parlera des fins de mois difficiles, pouvoir d'achat, risque de colère sociale, problème avec l'énergie au sens large. Ce sera notre débat dans un instant avec nos invités ce matin, Gérard Vespierre, géopoliticien, et Pascal Delima, chef économiste de Harwell Management. Bienvenue à tous les deux. Mais d'abord, les titres qui s'emballent. À l'image d'Éric Zemmour, il n'est pas candidat, mais un tout dernier sondage le donne à 15% des intentions de vote derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est une bombe pour la droite et le Rassemblement National. Il sera en meeting aujourd'hui au Grand Palais à Lille. Il y a tout juste un an, la tempête Alex faisait des ravages dans les Alpes-Maritimes. 10 morts, des villages coupés du monde, des maisons et des routes complètement détruites. Un an après, vous verrez que la reconstruction est longue et difficile. On en parlera avec le maire de Breil-sur-Roya à 7h30. Et puis une note d'espoir en ce début de week-end d'automne, un médicament efficace contre le Covid. Il réduirait par deux le risque d'hospitalisation aux États-Unis. Le laboratoire Merck se dit prêt à le commercialiser. Elisa, à la une, c'est donc encore une fois Éric Zemmour.
Oui, Éric Zemmour qui assure la promotion de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Il était hier dans les Hauts-de-France, hein, à Valenciennes. Il a échangé avec 300 entrepreneurs, l'écrivain et polémiste. Toujours pas déclaré candidat à la prochaine présidentielle, est attendu à Lille ce samedi. Les précisions de notre envoyé spécial Gauthier Lebret, accompagné de Sacha Romain.
Éric Zemmour continue son tour de France après le sud avec Toulon et Nice. Le voilà dans le nord, à Lille, pour une nouvelle séance de dédicace cet après-midi qui pourrait rapidement se transformer en nouveau meeting politique. Il va prendre la parole pendant une heure et demie, échanger avec ses sympathisants et puis bien sûr leur dédicacer son nouvel ouvrage « La France n'a pas dit son dernier mot ». Éric Zemmour qui était hier du côté de Valenciennes pour échanger avec 300 chefs d'entreprise. Certains de ces chefs d'entreprise nous ont confié à la sortie qu'ils avaient le sentiment qu'Éric Zemmour allait bientôt se déclarer à la présidentielle. Et puis c'était l'occasion pour le polémiste de discuter économie, de prouver qu'il peut parler d'autre chose que d'immigration et de grand remplacement. Et ici, à Lille, il va monter en puissance puisqu'il y aura encore plus de monde qu'à Toulon et à Nice. 1500 personnes sont attendues, alors qu'Éric Zemmour confirme sa percée dans les sondages. Dans un nouveau sondage, il est devant le candidat des Républicains.
On en parlera plus longuement dans notre débat à 8h10. Il y a un an, la tempête Alex touchait de plein fouet la vallée de la Roya, à l'est des Alpes-Maritimes.
Oui, et le bilan humain était lourd, hein. 10 morts et 8 portés disparus et les dégâts considérables. Alors aujourd'hui, la vallée renaît progressivement, mais où en est la reconstruction? Élément de réponse avec Régine Delfour.
Dans la vallée de la Vésubie, les tractopelles fonctionnent sans relâche. Tout autour, des monceaux de pierres et sur des kilomètres, le même paysage de maisons éventrées. Un an après la catastrophe, les habitants de Saint-Martin-Vésubie ont du mal à panser leur plaie, comme Jean-François Rougusto.
C'est vrai qu'avec ma femme et mes enfants, bon, quand le matin on se lève, qu'on a les visions, c'est encore compliqué. Ouais. Mais bon. Il y a eu beaucoup de choses de faites, ça va se faire, il faut garder le moral.
Le 2 octobre 2020, un déluge s'abat sur l'arrière-pays de Nice et Menton. La tempête Alex fait 10 morts et 8 disparus. Les rivières se déchaînent dans les vallées de la Roya, Vésubie et Tinée, et engloutissent tout sur leur passage. Aujourd'hui, le camping Les Templiers est enfin rénové pour le bonheur d'Arnaud Leclerc, son propriétaire.
Des campeurs ont annulé des séjours dans d'autres départements quand ils ont su que j'étais ouvert pour venir me voir. Ça fait plaisir.
Aujourd'hui, un an jour pour jour après la catastrophe, plusieurs cérémonies sont prévues en hommage aux victimes.
La crise du Covid, premier week-end où le pass sanitaire devient obligatoire pour les adolescents.
Oui, les jeunes âgés d'au moins 12 ans et 2 mois doivent présenter ce sésame pour se rendre dans certains lieux, restaurants, musées ou encore salles de sport. Ils devront présenter un QR code attestant d'un schéma vaccinal complet ou d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'est le premier week-end où cette nouvelle mesure va s'appliquer. Environ 5 millions de jeunes sont concernés. Et justement, alors qu'aux États-Unis la Covid a fait 700 000 morts, il y aura peut-être bientôt un médicament sur le marché pour réduire les risques d'hospitalisation liés à ce virus. Un laboratoire américain va demander l'autorisation de commercialiser cette pilule. Les précisions de notre envoyée spéciale, Elisabeth Guedel.
Le molnupiravir, c'est le nom de ce médicament, pourrait donner un coup d'accélérateur à la lutte contre la pandémie. Il éviterait aux personnes qui ont contracté le virus de la Covid, qui sont au début de l'infection avec des symptômes légers ou modérés, eh bien de tomber plus gravement malade. Le laboratoire américain Merck assure que son traitement antiviral peut réduire de moitié les risques d'hospitalisation ou de décès sans effet secondaire important. Grand avantage de ce traitement, il est très facile à administrer, il est à prendre chez soi, à la maison, 4 comprimés 2 fois par jour durant 5 jours. Il a été testé sur 775 volontaires et les essais cliniques sont suffisamment prometteurs pour que Merck demande à l'Agence américaine du médicament l'autorisation de le commercialiser. Il est le premier d'une vague de pilules antivirales qui sont développées par d'autres laboratoires comme Pfizer et qui vont arriver sur le marché dans les prochains mois.
Et santé toujours, c'est important, la 28e édition d'Octobre Rose, elle a commencé hier.
Début d'un mois d'événements dans toute la France pour lutter contre le cancer du sein. Plus de 58 000 nouveaux cas sont décelés chaque année en France. Une femme sur 8 a un risque de développer ce type de cancer au cours de sa vie, d'où l'importance de se faire dépister le plus tôt possible. Comme le rappelle Sandrine Planchon, c'est la responsable de l'association Ruban Rose, on l'écoute.
Il n'y a encore qu'une femme sur deux qui va faire ce dépistage, donc il est important de dire aux femmes, allez vous faire dépister, mais n'attendez pas forcément 50 ans et à partir de l'âge adulte, allez tous les ans voir un professionnel de santé et vous faire examiner, parce que pris à temps, c'est-à-dire une tumeur qui a moins de 2 cm, c'est 9 femmes sur 10 qui peuvent guérir de ce cancer des seins ou de ces cancers des seins, parce qu'il y en a plusieurs.
Et puis une note terminale pour terminer ce journal, Elisa.
Petite note musicale, écoutez.
La voix et évidemment, la mélodie. Cette voix absolument sublime.
On adore.
Merci de nous mettre du Sting de bon matin.
Un petit peu de Sting, mais pourquoi? Parce qu'il fête ses 70 ans. Aujourd'hui, le chanteur britannique, le leader du groupe Police, auteur, compositeur, interprète et musicien, il continue son incroyable carrière. Il sort le 19 novembre prochain un nouvel album qui s'appelle The Bridge.
Merci beaucoup Elisa, à tout à l'heure. Tout de suite, on jette un coup d'œil sur le temps de notre samedi avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire.
Bonjour,
c'est catastrophique cette météo.
Absolument, surtout pour le nord-ouest, puisqu'en effet, 5 départements sont placés pour l'instant en vigilance pluie-inondation. On attend en effet des cumuls importants jusqu'à 60 mm, l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie pour un mois d'octobre. Donc dans le détail, cette perturbation, on va surtout la retrouver en matinée pour l'instant donc de la Bretagne en direction des Pays de la Loire, avec des pluies déjà localement soutenues, du vent à l'avant. Donc c'est déjà le soleil qui se maintient, mais vous allez voir que ça va quand même s'ennuager progressivement avec un peu d'instabilité encore. C'est dans l'après-midi, eh bien, cette perturbation va s'étendre, c'est là où elle va être la plus active. Donc attention pour cet après-midi, ce soir et pour cette nuit où vraiment les cumuls seront à surveiller avec en prime du vent qui va souffler très fort, 80 km/h à l'intérieur des terres et même tempétueux le long du littoral jusqu'à 100 voire 110 km/h. Pour les températures en matinée, elles seront comprises entre 6 et 17 degrés, donc des températures de saison. Par contre, dans l'après-midi, vous allez voir qu'on assiste à une légère hausse. On peut même encore parler de douceur pour un mois d'octobre. Regardez, 23 degrés du côté de Strasbourg, 25 degrés du côté de Bordeaux et la maximale de 26 degrés. Que ce soit pour la vallée de la Garonne, tout comme pour la Corse.
Merci beaucoup Claire, on veut bien encore un petit peu de douceur en ces débuts d'octobre. Il est 7h08, il est temps de passer à notre débat.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Avec nous pour débattre de bon matin sur CNews et Europe 1, Gérard Vespierre, vous êtes géopoliticien, et Pascal Delima, chef économiste de Harwell Management. Bonjour à tous les deux. C'est une question qui obsède beaucoup de Français, les factures qui s'empilent et qui sont de plus en plus élevées. Le gaz, l'électricité, l'énergie en général, et ce, malgré les annonces de Jean Castex et de son bouclier tarifaire, les Français sont très inquiets pour leur fin de mois. Ça n'augure pas un climat très très serein à quelques mois de la présidentielle. On voit d'ailleurs dans un dernier sondage que finalement, le sujet de préoccupation numéro un, c'est le pouvoir d'achat pour les Français. On en revient aux fondamentaux. Gérard Vespierre, c'est le portefeuille. Est-ce qu'il est vraiment attaqué ?
Écoutez, je pense que là, pour faire la liaison avec les périodes précédentes de l'émission, la météo économique est quand même moins catastrophique que la météo de ce samedi matin.
Oui, mais le ressenti, lui, est catastrophique.
Non, mais je crois que c'est effectivement peut-être le devoir et l'exigence posée aux experts de donner un petit peu de recul à la situation. Effectivement, il y a un coup de vent, si on continue le parallèle, dans les prix de l'énergie. Et de façon intéressante, le mécanisme derrière le gaz n'est pas le mécanisme derrière le pétrole, n'est pas le mécanisme de hausse derrière l'électricité. Donc on n'a pas un système qui s'emballe, on a des raisons de hausse qui sont différentes. Et pour raison garder, la situation française d'inflation à autour de 2% est beaucoup moins difficile que la situation anglaise à plus de 3% ou la situation russe à presque 7%. Voyez-vous, donc il faut quand même raison garder.
Oui, mais Pascal Denibas, ça n'empêche pas que les Français, quand ils font leurs calculs, ils s'inquiètent.
Oui, en fait, il y a deux choses, effectivement. Il y a le long terme et il y a le ressenti des Français. Alors, effectivement, sur le long terme, c'est juste de voir qu'on observe un pouvoir d'achat, finalement, mais c'est des moyennes, si vous voulez, c'est des moyennes nationales qui ne se dégradent pas vraiment. Hein. Depuis 1999, on a un pouvoir d'achat qui a plutôt tendance légèrement à augmenter, avec une décroissance de cette augmentation. Alors, c'est un peu compliqué, la décroissance de l'augmentation, mais c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration en moyenne depuis 15 ans, depuis 20 ans, une amélioration de ce pouvoir d'achat.
Comment expliquer que personne ne voit d'amélioration?
Oui, tout à fait. Ça, c'est le débat de l'INSEE, etc. C'est toujours un débat, c'est systématiquement le même, c'est qu'il y a un ressenti et il y a des données macroéconomiques. Donc les données macroéconomiques sur le long terme sont celles-ci. Il faut préciser que le pouvoir d'achat, rappelons-le très simplement, en gros, c'est les salaires que l'on va diviser par l'inflation. Je simplifie. L'inflation d'un panier de biens représentatif. Donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir un salaire qui augmente légèrement au niveau national, mais un ressenti de pouvoir d'achat qui diminue. Pourquoi ? Parce que vous avez des dépenses incompressibles. Il y a des dépenses incompressibles, les dépenses d'IFO, télécommunications, le gaz, l'électricité, etc.
Mais qui, elles augmentent pour le coup, oui, sinon Jean Castex n'aurait pas prévu ce bouclier tarifaire.
Elles augmentent, ce sont ces dépenses incompressibles qui augmentent, si vous voulez. Ce n'est pas forcément le niveau... Et ce sont ces dépenses incompressibles qui augmentent, dont on peut pas, sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des moyennes. Et il y a des situations où là, on constate effectivement une dégradation du pouvoir d'achat global. C'est-à-dire que là, il y a même un problème, je dirais, carrément au niveau du numérateur, c'est-à-dire du niveau de salaire. Mais c'est une partie de la population.
Donc vous dites qu'il y a un fossé qui se creuse très nettement.
C'est le débat des économistes entre les grandes données en moyenne nationale et ce qui est vécu, et voire même un peu la réalité subjective et objective de certaines catégories de la population qui cumulent famille monoparentale, divorce, des situations de précarité, les CDD, les contrats courts. Toute cette population-là, plus fragile, vit réellement une dégradation de leur niveau de vie.
Gérard Vespierre, c'est ça précisément qui avait conduit à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà, il faut quand même le rappeler. Est-ce qu'il y a un risque? Comment ça, non? Il y a quand même un risque d'explosion sociale, de colère sociale.
Non.
Pourquoi non?
Un petit peu.
Pascal Delima, vous dites quand même.
Non, parce qu'on augmente tellement la pression sur cette sensation-là que je crois qu'il est nécessaire aussi de prendre un petit peu, de façon volontaire, le contre-pied. Voilà. Parce que le mouvement des Gilets jaunes est venu d'une accumulation de décisions politiques. On n'était pas dans un système économique européen ou mondial qui allait vers l'inflation. Il y a eu des augmentations décidées par l'État, par exemple des taxes sur l'essence. C'est intervenu après que l'État français ait décidé, par exemple, de limiter la vitesse à 80 km/h. Donc voilà, on a eu une accumulation de décisions qui ont mécontenté le pays et n'ont pas forcément une situation économique ressentie réelle.
Pascal Delima, on n'est pas dans une situation inflammable aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre.
Il y a un risque de, il y a un risque social qui est présent.
Présent. Ah
bah, si vous voulez, il y a trois facteurs. Il y a effectivement la conjoncture économique qui repart, mais elle ne repart pas de la même façon pour tout le monde. Il y a des pays aujourd'hui qui ont des possibilités de pression géopolitique importantes. Je pense à la Russie pour le gaz, et qui font pression sur les prix et qui vont utiliser leur situation. Et là, c'est vous qui êtes expert, pas moi, qui vont faire pression. Enfin, qui a un argument politique. On le sait avec la Russie, on connaît Gazprom, l'Ukraine. On a vu comment ça se passait. On voit pas pourquoi ça se passerait pas pareil pour l'Europe. Et puis, il y a aussi deuxième élément, c'est que l'Europe sociale n'existe pas. Et là, il y a un vrai problème. Et l'Europe énergétique a certaines incohérences. On sait très bien que la France exporte son gaz, exporte de l'électricité également grâce au nucléaire, parfois moins cher à l'extérieur qui ne le fait facturer à l'intérieur, ce qui est une aberration absolument incroyable en Europe. Et puis il y a les tensions purement sociales qui sont liées à certaines catégories de la population dont on a parlé, qui ne suivent pas forcément la tendance globale qui n'est pas catastrophique, mais qui sont frappées de plein fouet, comme d'habitude, comme dans tous les dossiers. Je précise qu'il y a une aberration et qu'il y a quelque chose d'assez drôle, entre guillemets, sur cette question des gilets jaunes, c'est que l'État est intervenu avec ses 11 milliards, d'ailleurs c'est jusqu'à 17-18 milliards si on regarde vraiment dans le détail, à l'époque de la crise des gilets jaunes, et ça a un tout petit peu boosté le pouvoir d'achat. Donc voilà, on est... il faut espérer que les politiques de demande qui avaient eu lieu juste à ce moment-là puissent reprendre leur cours, les politiques de demande, de stimulation du pouvoir d'achat, et que ce ne soit pas uniquement de la défiscalisation ou de la politique de l'offre pour entreprise. Attention au pouvoir d'achat, mais c'est des politiques de demande et c'est autre chose.
Gérard Vespierre, sur la question de l'énergie, on voit bien qu'on est très dépendant d'autres pays, oui, que les prix peuvent augmenter, c'est ce que vous disiez à propos de la Russie et du gaz. Est-ce que l'énergie va être un sujet majeur, et je vous laisse très peu de temps pour répondre, dans les mois qui viennent?
Dans les mois, non, parce que le grand bouleversement est dans les années à venir. On ne va pas pouvoir passer sans difficulté du pétrole à l'électricité pour nos voitures. Alors, on ne va pas pouvoir passer en Chine facilement du charbon au gaz. Donc il va y avoir des bouleversements sur les marchés de l'énergie.
Et au niveau des prix ?
Il va y avoir des répercussions. C'est-à-dire que la transformation écologique, c'est un mot, mais il y a des conséquences économique auquel il va falloir prêter fortement attention, parce que par exemple dans cette décennie le marché du pétrole va complètement changer, parce qu'on va arriver à un maximum de consommation alors qu'on s'attendait à un maximum de production.
Oui, merci beaucoup à tous les deux. On en reparlera avec Jean-Pierre Elkabbach de l'énergie tout à l'heure dans son rendez-vous à 8h40. Gérard Vespierre, géopoliticien, et Pascal Delima, chef économiste de Harwell Management. Merci d'avoir partagé ce débat avec
nous.
Merci
à vous.
Dans un instant, nous aurons le plaisir de retrouver Michel Chevalet. La température va encore monter d'un cran. Notre spécialiste des questions scientifiques nous dira tout sur un volcan en pleine éruption.
La matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
7h23, vous êtes bien sur CNews et Europe 1 avec Michel Chevalet. Bon pied, bon œil de bon matin. Bonjour Michel.
Bonjour. C'est un peu dur, hein. C'est un petit peu dur. Le matin.
Non, vous avez l'air frais comme un gardon, spécialiste des questions scientifiques. Aujourd'hui, Michel, vous nous parlez d'un monstre qui crache du feu. Le volcan de La Palma, sa lave a atteint la mer, elle se refroidit et du coup, ça fait agrandir l'île.
Ben oui, mais c'est un phénomène tout à fait classique. Hein. C'est un phénomène classique, des laves qui coulent dans la mer, ça agrandit les îles. Bon, ben, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour l'Islande, pour la Réunion, pour Hawaï. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait classique. Sauf que cette fois-ci, vous allez voir, c'est un risque de mal finir.
Alors, comment ça marche, Michel?
Alors, comment ça marche? Alors, on va faire un petit peu de géologie, vous expliquer ce qui se passe. Les Canaries, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est la conjugaison de deux phénomènes. Le volcanisme, on va y revenir, et la dérive des continents. Alors, moi je compare toujours nos globes terrestres, ça fait plaisir à Charlotte, à une crème brûlée. Il y a une croûte qui est dure.
Charlotte Gorzala qui est en régie avec nous.
Hein. Voilà, et puis dessous, il y a la pâte molle, la crème, c'est la lave. Et puis les plaques à la surface jouent les unes par rapport aux autres. Quand ces plaques s'écartent, vous le savez, il y a la lave qui coule, c'est ce qui se passe en Islande, il y a des volcans. Et quand les plaques se chevauchent, sur l'autre, c'est très méchant, ça donne des tremblements de terre, ça donne des volcans très méchants, et c'est la cordillère des Andes, la ceinture de feu, le Japon, l'Indonésie, etc. Et puis, en plein milieu d'une plaque, on ne sait pas pourquoi il y a une faille, et bien la crème sort de la croûte, de la crème brûlée, Et puis là, il y a ce qu'on appelle un point chaud. Et un point chaud qui a donné naissance, la lave sort, ça fait des gros volcans, c'est Massif Central, c'est La Réunion, c'est Hawaï. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aux Canaries. Il y a un énorme volcan, il y a 20 millions d'années, qui est né au large du Maroc, qui est 4000 mètres de profondeur, vous voyez, c'est pas petit, qui a sorti la tête de l'eau, et ça a donné naissance à une île, et la première île, c'est Lanzarote, il y a 20 millions d'années.
Mais alors pourquoi ce chapelet d'îles ?
Ah, parce qu'il y a un deuxième phénomène, tout bouge, c'est ce qu'on appelle la dérive des continents, vous savez, les plaques bougent. Donc le Maroc et toute l'Afrique s'éloignent de l'Amérique, hein, ça on le sait, 2-3 cm par an, et ça entraîne évidemment l'île avec elle. Sauf que le point chaud, lui, il est fixe, il est fixe, il ne bouge pas. Et donc... quand le volcan va se réactiver, c'est ce qui s'est passé aux Canaries, c'est-à-dire 20 millions d'années, c'est-à-dire 8 millions d'années après, oui, il est calme, oui, il ressort la tête de l'eau, il refait une nouvelle île, c'est les Grandes Canaries, puis ça a été Tenerife, et puis ça a été Lanzarote il y a 1,7 million d'années, et puis la dernière, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'île de Fer, il y a 1 million d'années à peu près. Voilà, voilà pourquoi, donc, il y a un chapelet d'île. Voilà, donc vous voyez, on est les témoins, en quelque sorte, de la consolidation d'une île, mais... ça ne veut pas dire que dans quelques millions d'années, il n'y aura pas une nouvelle île qui sortira. C'est-à-dire que les Canaries, au lieu de 7 îles, en feront 8.
Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que tout est normal, que tout va bien, mais ça va quand même mal finir, cette affaire.
Alors, je dis, ça peut très mal finir, parce qu'il y a une étude anglaise qui a été très contestée, mais faite par des géologues et très sérieux, et qui dit, attention, le flanc de ce volcan sur lequel actuellement coule la lave, il est très instable, il est en pente assez raide vers la mer. Et la mer, là, il y a 4000 mètres de profondeur. Et donc, tout le flanc de ce volcan risque, comme pour le Stromboli, de glisser dans la mer. Et donc, vous voyez, plusieurs millions de kilomètres cubes de roches qui tombent brusquement dans la mer, ça donne naissance à quoi, ma chère? Ben, un tsunami, un gigantesque tsunami, c'est ce que disent les experts. C'est-à-dire des vagues, des trains d'ondes qui vont traverser l'océan Atlantique en 7-8 heures, vont se retrouver du côté des Bahamas, de la Floride, et des vagues, ils disent, de 20 à 30 mètres de haut qui vont tout noyer. Donc ça serait un véritable cataclysme. Donc c'est à suivre. Et les Espagnols disent, on sait, on est au courant, il y a un risque, mais on contrôle, enfin, on mesure. Pour le moment, pas de danger.
Mais c'est vraiment sérieux, cette possibilité.
L'étude a été prise au sérieux. Alors, il y a un autre problème qui est maintenant avec les laves. On dit, oh là là, la lave qui coule dans la mer. Mais enfin, ça s'est déjà produit, on le connaît. Ça dégage des gaz toxiques. Alors, il y a des gaz toxiques, mais attention. Quand la lave coule dans la mer, ça forme un mécanisme qui est très particulier, qui a été filmé, bien étudié. Vous savez, moi je dirais que c'est les profiteroles. C'est l'inverse des profiteroles.
Mais non, mais c'est une chronique pâtisserie ou science, Michel ?
Oui, c'est une très belle image.
Effectivement.
Je l'ai vérifié avec des copains géologues. C'est un peu des profiteroles. Les profiteroles, c'est le chocolat qui est chaud et puis le cœur qui est froid. Là, c'est l'inverse. Quand la lave tombe dans l'eau, elle se refroidit. Elle forme ce qu'on appelle des pilo-lava, c'est-à-dire des oreillers, comme des gros oreillers. La surface est froide et lisse, mais le cœur reste chaud. Et donc, il y a de la vapeur d'eau, et à un moment, boum, la profiterole explose. Hein, donc, mais les gaz sont émis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vapeur d'eau, on le voit toujours sur les images, c'est très spectaculaire. Et les gaz qui sont émis, sur la plus grande partie pour moi, ne va pas dans l'atmosphère, mais elle est dissoute dans l'eau. C'est-à-dire que il y a un danger, il y a un risque, c'est-à-dire que l'eau va devenir plus acide en raison du soufre, en raison du chlore. Mais le danger, il n'est pas pour les habitants qui ont été évacués, le danger, il est pour la faune et la flore. Quand j'ai interrogé le Muséum d'Histoire Naturelle, il me dit non, les poissons, avec les vibrations, ils sont partis.
Ils ont senti qu'il fallait
partir. Voilà, ils sont très sensibles aux vibrations, les poissons sont partis. Simplement, il va falloir surveiller la composition de l'eau. Mais vous voyez bien, encore une fois, ce que l'on a sous les yeux, c'est un mécanisme tout à fait naturel d'agrandissement du Nil.
Merci beaucoup Michel Chevalet pour ces précisions gastronomiques,
culinaires
et scientifiques. Tout de suite, c'est l'heure du rappel des titres avec Elisa Lukavski.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
La politique, Elisa, pour commencer.
Oui, et Éric Zemmour qui ne cesse d'augmenter dans les sondages, dans un sondage dévoilé hier. Celui qui n'est pour l'instant pas déclaré candidat est crédité de 15% des intentions de vote au premier tour de la prochaine présidentielle. Il est derrière Emmanuel Macron à 24% et un point devant Marine Le Pen. Éric Zemmour qui devance les candidats de droite puisque le premier d'entre eux est Xavier Bertrand qui récolte 14% des intentions de vote. On en parlait d'Éric Zemmour, l'ancien, l'écrivain et le polémiste qui continue son tour
Tour de France. Après le Sud, il était hier dans les Hauts-de-France, du côté de Valenciennes, où il a rencontré 300 entrepreneurs. Il sera ce samedi à Lille, dans le cadre de la promotion de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Il prendra la parole pendant une heure et demie et échangera avec ses sympathisants. 1500 personnes sont attendues.
Une nouvelle manifestation anti-crack prévue aujourd'hui à Paris.
Oui, le ras-le-bol des riverains, il continue. Les habitants du nord-est parisien, réunis au sein de collectifs anti-crack, se mobilisent ce samedi pour alerter sur leur situation et celle des consommateurs laissés en errance. Pour beaucoup, leur quotidien est devenu insupportable. Reportage signé Kinson, Pierre-François Altermat et Jeanne Cancard.
Théoriquement, on fait ça et on va en direction de Porte de la Villette. Là, on est obligé de contourner de l'autre côté de la place.
Pour éviter de croiser des toxicomanes, Stéphanie s'impose des détours. Depuis vendredi dernier, l'arrivée de dizaines de consommateurs de crack dans son quartier, cette habitante d'Aubervilliers vit dans l'angoisse. Pour elle, ces toxicomanes doivent partir et être pris en charge avant qu'un drame n'arrive.
La problématique, c'est qu'il existe déjà des trafics, donc d'autres drogues. Ces trafiquants sont dérangés par ces nouveaux consommateurs, mais aussi dealers qui sont présents sur le terrain sur lequel ils ont été déplacés. C'est évident que ça dérapera parce qu'on a des échos de cités dans lesquelles entre lesquelles je me situe qui laissent entendre effectivement une montée de violence.
À quelques kilomètres de là, d'autres riverains se mobilisent.
Vous savez qu'il y a une salle de shoot qui est censée ouvrir juste au bout là.
Cet habitant du 10e arrondissement de Paris distribue des tracts pour appeler à se rassembler. Dans son quartier, pas de regroupement de toxicomanes pour le moment, mais de potentielles futures salles d'accueil pour ces consommateurs de crack.
La maire de Paris explique que chacun doit prendre sa part, mais en fait on se rend compte que ça se concentre que sur nos quartiers, des quartiers qui sont populaires. On n'est pas le laboratoire du crack de Paris et de France.
Les riverains du nord-est parisien appellent à manifester chaque semaine tant que des solutions concrètes ne seront pas prises par l'État et la mairie de Paris.
Et puis la donne change pour nos ados ce week-end, premier week-end où le pass sanitaire Elisa est obligatoire.
Depuis jeudi, les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois doivent présenter ce sésame pour entrer dans certains lieux comme les restaurants, les musées ou encore les salles de sport. Ils devront présenter un QR code attestant d'un schéma vaccinal complet ou d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'est le premier week-end où cette nouvelle mesure va s'appliquer. Environ 5 millions de jeunes sont concernés.
Merci beaucoup Elisa Lukaski. On vous retrouve pour un prochain journal complet à partir de 8 heures. C'est un week-end très particulier pour les habitants de l'arrière-pays niçois. Il y a un an, des crues meurtrières avaient fait 10 morts et 8 disparus. De nombreux hommages sont prévus aujourd'hui et demain dans les vallées de la Vésubie et de la Roya. Nous sommes avec Sébastien Ollaran, le maire de Breil-sur-Roya. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1 et CNews. Il y a un an, Météo France parlait de cette tempête comme d'une bombe météorologique, la catastrophe qui a fait le plus de dégâts en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans quel état d'esprit êtes-vous un an tout juste après ce drame ?
Un an après la catastrophe, notre commune et nos vallées des Alpes-Maritimes se relèvent progressivement de ce drame. Nous sommes confiants dans l'avenir, mais conscients qu'il y a encore devant nous une tâche de reconstruction qui va prendre plusieurs années.
Quels sont pour aujourd'hui et demain d'ailleurs les hommages que vous avez prévus ? Est-ce qu'il y a une solidarité aussi entre les communes ?
Il y a toute une série d'hommages qui sont prévus. Ça commence ce matin à Tende avec le dévoilement d'une statue, le Bon Pasteur, en hommage à un berger qui a été emporté par les flots dans cette nuit terrible du 2 au 3 octobre 2020. Il y aura ensuite tout au long de la journée des cérémonies dans la vallée de la Vésubie et notamment en fin de journée à Saint-Martin-Vésubie. Et demain matin, nous aurons une commémoration à Breil-sur-Roya avec l'inauguration d'une maison du souvenir, le dévoilement d'une plaque en hommage aux trois victimes de la commune qui sont mortes dans cette catastrophe et une grande cérémonie au bord du lac qui a été récemment remis en eau.
Vous avez pris une part active dans l'organisation de ces cérémonies. Est-ce que vous sentez que c'est important pour vous, bien sûr, en tant que maire, mais aussi en tant que victime et pour les autres habitants ?
Oui, moi et mon équipe municipale, nous sommes particulièrement investis dans l'organisation de ces commémorations. Ça nous semblait particulièrement important de marquer cet événement, même si nous savons que c'est quelque chose de difficile à vivre. Nous savons que beaucoup d'habitants voyaient approcher cette date d'anniversaire avec appréhension. Mais malgré tout, c'est important, un an après, de nous souvenir bien sûr de ceux qui ont perdu la vie dans cette catastrophe, de ceux qui, un an après, sont toujours dans la détresse, que ce soit les familles de disparus ou que ce soit ceux qui attendent toujours de savoir s'ils vont pouvoir retourner dans leur habitation ou pas. Et c'est aussi l'occasion de nous souvenir et de remercier tous ceux qui nous ont tendu la main pendant la catastrophe et depuis un an. Et on a assisté à une solidarité extraordinaire et c'est très important de savoir être reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés.
Est-ce que le traumatisme, malgré tout, s'estompe ou est-ce que ça reste très vivace au quotidien auprès de vos administrés? Est-ce que régulièrement, ils vous posent des questions, ils vous font partager leurs inquiétudes?
Le traumatisme s'estompe de jour en jour et à chaque fois qu'on s'éloigne de l'événement. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'inquiétudes qui demeurent. Et aujourd'hui, on voit bien que la moindre alerte météo est vue avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude par les habitants de nos vallées, même si on a plutôt des prévisions qui tendent à s'améliorer. Au départ, on a fait peur à tout le monde en annonçant un épisode méditerranéen pour dimanche, et puis finalement, il serait même plus question de pluie pour cette journée, ce qui nous permettra de faire ces cérémonies de commémoration dans de bonnes conditions.
Mais on sent effectivement que vous scrutez le ciel avec beaucoup d'attention et parfois même d'appréhension. Où en est la reconstruction matérielle? Vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant qu'un an après, ça y est, ça reprenait. Est-ce que ça va au rythme où vous le souhaitez?
Je considère que les travaux de reconstruction avancent et avancent vite compte tenu de l'ampleur des dégâts. Je sais aussi qu'il y a une énorme partie du travail qui reste devant nous. Mais pour vous donner quelques exemples, nous avons depuis quelques semaines la route qui a été totalement rétablie, réhabilitée entre Breil et la frontière italienne par les équipes du conseil départemental et les entreprises qui travaillent pour lui, avec un pont qui a été refait de manière définitive et ouvert à la circulation il y a seulement quelques jours. Un pont d'ailleurs qui est 30% plus long que l'ancien parce qu'on reconstruit toujours en essayant de faire en sorte d'être demain plus résilient face à ce type de catastrophe. Nous avons aussi depuis quelques jours le lac de Breil-sur-Roya qui a été remis en eau et qui est un élément d'attractivité touristique, mais aussi quelque chose qui était très attendu par les populations, parce que vous imaginez pendant un an vous lever tous les matins et voir ce lac vide, ce paysage gris, c'était vraiment important pour les populations de retrouver ces couleurs, ces reflets qui caractérisaient nos paysages et qui participent aussi du bon moral des populations.
À vous entendre, on a le sentiment que la vallée de la Roya et plus généralement l'arrière-pays niçois et de Menton sont mieux parés pour éviter un nouveau drame. C'est votre ressenti?
Oui, bien sûr. Après chaque catastrophe, nous faisons en sorte de tirer des leçons. Et de nous préparer davantage. Nous avons retravaillé notre plan communal de sauvegarde, nous avons un document d'information sur les risques majeurs qui est diffusé à toute la population de la commune. Nous avons constitué une réserve communale de sécurité civile, une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui sont là pour pouvoir porter secours en appui des forces de sécurité en cas de future catastrophe. Nous avons aussi fait en sorte de nous équiper, notamment de lits de camp, si on était amené à l'avenir à ouvrir de nouveau un centre d'hébergement d'urgence. Bref, on fait en sorte d'être mieux préparé. Et bien sûr, chaque fois qu'on reconstruit quelque chose, on le reconstruit de manière plus solide, avec de nouvelles techniques. Et on fait en sorte que les ponts, les soutènements de route ne puissent pas être emportés aussi facilement demain qu'ils ne l'ont été hier. Et puis, il y a des endroits où il est même matériellement impossible de reconstruire une route, compte tenu des gros glissements de terrain qui sont constatés. Et là, on construit directement un viaduc, un ouvrage d'art.
Merci beaucoup Sébastien Ollarand, maire de Breil-sur-Roya, avant ces cérémonies d'hommage un an après le drame provoqué par la tempête. Alex, merci beaucoup. À suivre dans un instant les films français, des très bons films à voir ce week-end au cinéma avec Laurie Choleva. Puis avec Mathieu Alterman, on parlera de James Bond. À tout de suite.
matinale week-end, CNews Europe 1. La matinale week-end, CNews Europe 1, Isabelle Moreau.
Le cinéma dans notre matinale week-end et les meilleurs films du moment passés devant les yeux avertis, experts de Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Isabelle.
Vous avez carrément eu un coup de cœur cette semaine.
Oui, c'est vraiment un joli film que j'avais découvert au dernier festival de Cannes, Les Intranquilles de Joachim Lafosse. L'histoire déchirante d'un couple joué par Laila Bekti et Damien Bonnard soumis à l'épreuve de la maladie puisque le personnage incarné par Damien Bonnard est atteint de bipolarité. Donc voilà, c'est un mari, un artiste, un père de famille qui est en souffrance et toute la famille d'ailleurs qui vacille avec lui.
Tu l'avales devant moi.
Donc tu me crois pas?
Non, je te crois pas.
Et du coup, tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus.
C'est pas drôle.
Mais si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri. Regarde, tu ris. Tu ris.
Quel couple, hein.
Ah, les acteurs sont vraiment épatants. Il y a eu d'ailleurs lors de la présentation à Cannes une grande standing ovation. Laila Bekti qui nous déchire le cœur en fait parce que c'est une femme qui est prête à tout pour soutenir son mari, mais on sent quand même que là c'est la crise de trop et c'est la crise qui va mettre en péril le bien-être de son enfant. Donc voilà, c'est un film qui questionne sur l'amour, la famille, jusqu'où on peut aller par amour, qu'est-ce qu'on peut tolérer. Enfin, c'est vraiment un joli film. Et puis les débuts, vous l'avez pas vu là dans l'extrême, mais les débuts sur grand écran du petit-fils d'Isabelle Huppert qui joue leur enfant et qui est remarquable.
Ah oui, on vous sent complètement emballé par Les Intranquilles. Et puis le nouveau film de Samuel Benchetrit aussi.
Que j'ai beaucoup aimé aussi, Cette musique ne joue pour personne. C'est un film choral, alors l'histoire de plusieurs personnages dans une petite ville portuaire, plutôt isolée, qui vont voir leur vie bouleversée par la découverte du théâtre, de la poésie, de l'art et surtout de l'amour.
Le comptable, là, tu l'as trouvé?
Il a disparu avec l'argent. Il veut sa femme.
Il est mort? Une gifle.
C'est pour qu'il vienne à la bombe de Jessica.
Bah, je viens si vous me filmez heureux. La moitié avant, la moitié après. Tu m'as pris pour un débile, Hagrid. C'est quoi, Hagrid?
C'est le gros de Harry Potter.
Tu vas rester là-bas pour la journée.
C'est du théâtre.
À quoi, c'est pas bien de faire du théâtre?
C'est chaud.
Non. On va faire la plume.
Ah non.
C'est drôle, c'est subtil, c'est très sensible, c'est très bien écrit, on sent la patte de Samuel Benchetrit. Ça reste pour moi l'un de ses films les plus accessibles, donc vraiment l'un des films de Samuel Benchetrit que j'ai préféré, avec ce casting 3 étoiles que vous avez vu dans la bande-annonce, de Vanessa Paradis à François Damiens, en passant par Joey Starr, Bully Lanners, Valeria Bruni Tedeschi, Ramzi Bedia. Enfin, vraiment, il y a une distribution incroyable et c'est très très drôle.
C'est vraiment la grande rentrée aussi de Samuel Benchetrit, hein, puisqu'il y a aussi au théâtre, où il met en scène Vanessa Paradis.
Exactement, la pièce s'appelle Maman.
Merci beaucoup Laurie. Un indice pour votre chronique de demain, de dimanche 007.
Oui.
À demain Laurie, merci
c'est
beaucoup.
C'est le code.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Et vous allez croire que c'est une obsession ce matin 007, mais franchement c'est le moment ou jamais de parler de James Bond avec un spécialiste, Mathieu Alterman du service culture d'Europe 1. Bonjour et bienvenue à vous Mathieu.
Bonjour, bah on est tous obsédés par James Bond depuis l'âge de 6 ans quand on est...
On est tous, ça dépend, hein, ça dépend où on se place, ça dépend qui on est, pour les femmes parfois ça peut être compliqué. Est-ce que James Bond est soluble dans ce monde woke de 2021?
Ah, c'est une bonne question. Effectivement, le nouveau James Bond sort mercredi. Mourir peut attendre. C'est le dernier avec Daniel Craig. C'est la fin d'un cycle, hein, au sein d'une saga qu'il a vraiment complètement renouvelée. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand il a pris la suite de Pierce Brosnan, il était attendu au tournant. Et aujourd'hui, vous faites un test assez amusant. Vous demandez à des gens dans la rue, citez-moi un James Bond avec Pierce Brosnan. Ils vont dire, je ne sais pas, il faisait du ski, il était bien coiffé, c'est tout. Alors que Daniel Craig, bah non, Daniel Craig, on a aimé ses failles, on a aimé la manière de réinterpréter le rôle. Et puis, il faut le dire, on a tous pleuré devant Skyfall. Je suis sûr, vous aussi, d'ailleurs.
Mais évidemment, la première.
Évidemment. Alors, pourtant, pour cet ultime rôle, il y a tout de même une polémique. Les médias, tout le monde annonce que James Bond s'est converti à la tendance woke.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette tendance woke et James Bond?
Alors, la tendance woke, en gros, hein, je vais le dire, c'est l'idéologie de souvent des jeunes personnes qui s'affirment éveillées, d'où le terme woke, voilà, et qui classent toutes les minorités ensemble pour y construire une convergence de haine face à l'idéologie dominante. Alors, en gros, je vais vous dire, on reprochera à James Bond d'être trop mâle, trop blanc, trop hétéro, trop macho, trop normé. Et alors, pour ce nouveau film, James, c'est très différent. Il rentre en concurrence avec une agent, une espionne, latino, interprétée par Ana de Armas, et puis avec une jeune comédienne jamaïcaine, Lashana Lynch, avec laquelle il rentre en rivalité vraiment dans l'écran, mais avec une rivalité non pas virile comme avant, mais plutôt sentimentale. En fait, James Bond devient un petit peu romantique, montre qu'il a un cœur, et ça plaît pas du tout à tous les fans.
Mais pourquoi pas, c'est un débat.
Oui, alors oui, c'est un débat, mais enfin bon, j'ai envie de vous dire, James Bond, c'est un rebelle au sein d'un univers très conservateur, et l'univers du crime, il reste quand même peu sensible aux thèses woke, en fait. Vous voyez, c'est quand même un truc qui ne le touche pas particulièrement. La règle établie depuis le début de la franchise James Bond, elle est très simple, c'est de l'exotisme, du sexe et de la violence. Certes, James Bond, il est misogyne.
Mais il est atrocement misogyne. Quand on revoit de vieux James Bond, on se dit mais qu'on est vraiment un siècle ou voire deux siècles en arrière.
On est presque un siècle en arrière.
Oui, c'est le cas. Bon, et c'est le cas.
Il est un peu misogyne, il a des partenaires multiples. Hein, bon. Il est violent, il est joueur, il boit beaucoup, hein, James Bond. Il adore les voitures rapides, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, en 1962, quand il est apparu, il a remis la lumière sur l'Angleterre au même moment que les Beatles, la même année. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, l'Angleterre et Londres, d'un coup, sont devenus très à la mode. Donc on peut lui pardonner. Alors certes, vous allez me dire, depuis, le monde a changé. Depuis les années 60, il n'y a plus vraiment de guerre froide avec l'URSS. L'URSS n'existe plus, il n'y a même plus du tout de guerre froide. Alors que c'était le socle de James Bond au départ. C'était la lutte contre l'Est. Et les services anglais peinent un peu à exister face aux géants FBI, CIA américains. Alors c'est vrai aussi que les fans de la saga peuvent se montrer un peu taquins. À ses débuts, Daniel Craig était traité de nain parce qu'il ne faisait qu'1m77.
Ils sont particulièrement rudes, hein, les fans de James Bond.
Ils sont un peu rudes. On disait, Daniel Craig fait 1m77, c'est pas possible. Il a la tête d'un espion russe à se faire tuer dès la scène pré-générique. Et puis, surtout, on disait, il y a quand même un vrai sujet, il est blond. Donc on l'appelait James Blonde.
C'est quand même dans avant. Et finalement, c'est celui qui aura tenu le plus longtemps les James Bond, à peu près. Ça fait 15 ans quand même.
Oui, il en a tourné moins quand même que Sean Connery et Roger Moore. Mais enfin bon, il s'est pas teint les cheveux, il a pu quand même revenir.
James Bond et son public, est-ce qu'ils sont finalement aussi conservateurs qu'ils en donnent l'impression?
Alors, pas tant que ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a eu tout de même, de par le passé, des rôles féminins au sein de la franchise, avec, c'est vrai, toutefois, des noms un petit peu équivoques, hein, Pussy Galore dans Goldfinger, Abondance de la queue dans Les Diamants sont éternels, et Octopussy, dans Octopussy, tout simplement. Mmh. Mais il y a eu aussi des choix courageux, par exemple, en 1973, d'imposer une James Bond girl noire, ce qui, pour le public américain, était quand même pas évident, parce qu'il y avait encore énormément de racisme dans le sud des États-Unis. Bon, ceci dit, le personnage mourrait très rapidement après avoir trahi dans le film. Tout de même, James Bond a traversé quand même la décennie à chaque fois en écho avec les évolutions de la société. Enfin, pas toujours, comme on peut l'entendre là. On ne peut pas l'entendre.
Bonjour, madame.
Si on l'entend. Un renseignement ?
Oui, je suis monsieur Bond. James Bond. Je voudrais voir le docteur Boudet.
Vous l'avez devant vous ?
Une femme.
Voilà. Oh, une femme, docteur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là? C'est un peu bon, c'est un peu spécial. C'est l'époque. Bon, voilà, oui. C'est ce qu'il faut dire. Alors, sérieusement, James Bond a changé dès la fin des années 80, en fait. Avec l'explosion du sida, c'était terminé. Hein. Il pouvait plus batifoler à gauche, à droite. La période Timothy Dalton et Pierce Brosnan, c'était monacal comparé au délire de Roger Moore. Alors là, vraiment, Roger Moore en la matière, il a connu jusqu'à 4 partenaires différentes dans Moonraker, dans énormément de ses autres films. Je sais pas si on peut entendre un son.
Non.
On l'a pas.
En tout cas, ce temps-là est révolu pour James Bond. Finalement, l'avenir de James, c'est quoi?
Oui, mais enfin, l'avenir de James Bond, c'est quoi? Est-ce que ça va être des poursuites à vélo avec des sommations du type « Halte, espèce de vilain, où je tire ?» Non, c'est pas possible.
Là, vous caricaturez la société.
Oui, mais c'est parce que je suis mauvaise foi. Est-ce que pour autant, parce qu'il va plus falloir prendre l'avion, parce que les voyages, ça pollue, est-ce que ce sera terminé bon baiser de Russie et que ça va devenir coucou de Montargis? Non, enfin, c'est pas possible, je pense pas. Est-ce que Octopussy va devenir calamar à la plancha? Est-ce qu'on dira plus Casino Royal et on va appeler ça centre de loisirs Cupide au sang bleu? Non, j'exagère. Mais il y a quand même eu les dernières nouvelles de Londres cette semaine, où avant d'attendre les décisions de la production du choix du nouveau James Bond, l'acteur qui interprète le rôle de Q, c'est Monsieur Gadget, l'acteur s'appelle Ben Whishaw, a suggéré un acteur gay pour le prochain James Bond. Il a avancé même des noms, hein, Luke Evans de The Hobbit, la révélation de Bridgerton, Jonathan Bailey. Sauf que j'ai envie de dire, oui, un acteur gay, mais il est où le problème? Le problème, c'est pas James Bond qui va devenir gay. C'est un acteur gay pour jouer le rôle de James Bond.
Quel est l'intérêt de préciser que l'acteur est gay?
Voilà, exactement.
Personne n'a parlé lui.
Attendez, depuis la Commedia dell'arte au XVIe siècle, le rôle d'un acteur, c'est d'interpréter ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire Jean-Claude Brialy, homosexuel, ou a toujours joué des rôles d'hétérosexuels au cinéma, et inversement, Michel Serrault n'était pas Zaza Napoli dans la vie. Voyez, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Ce qu'on veut, c'est un bon acteur, point. Ce qui se passe dans son lit, on s'en fout.
Dernière question, Mathieu, James Bond n'est-il pas un peu déconnecté?
Mais est-ce que James Bond, il doit être connecté? Est-ce qu'il doit être crédible? C'est le seul agent secret qui donne son nom à tout le monde dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Bond, James Bond. Il le dit à tout le monde. Ce qui, quand même, pour une couverture d'un agent secret, est quand même moyen. Il n'a jamais été un modèle pour les plus de 18 ans. Les ventes de Martini Dran, ça stagne un petit peu. Le smoking, c'est fragile sous la pluie. Il y a des transformations nécessaires, il est évident, mais je veux dire, je pense que la production ne doit pas se prendre la tête avec ça. Les nouveaux plans, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit faire un James Bond Walk? Si c'est un James Bond Walk, c'est Alain Bougrain-Dubourg qui doit jouer son rôle. James Bond, c'est un héros pour les petits garçons. Le Bureau des légendes, c'est le réel. James Bond, c'est l'aventure. Et nous, on aime James Bond parce qu'on sera jamais comme lui. Et c'est très bien comme ça.
Merci beaucoup, Mathieu Alterman, du service culture d'Europe 1. La matinale week-end continue sur CNews et Europe 1. A tout de suite pour un nouveau journal. Notre débat consacré à la folle percée d'Éric Zemmour dans les sondages. Juste derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est une bombe pour la droite puisqu'il devance même Xavier Bertrand.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Quand on veut emménager à deux, le bon réflexe, c'est manomano.fr. Vous y trouverez un super canapé, parce que le vôtre ne lui plaît pas et que vous n'aimez pas le sien. Vous trouverez aussi la table parfaite, même s'il paraît qu'elle ressemble un peu trop à celle de son ex. Bon, apparemment, vous trouverez surtout que c'est peut-être pas une bonne idée d'emménager ensemble. Mais c'est pas grave, vous avez repéré plein de nouveaux trucs pour chez vous.
C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Manomano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Dans la vengeance au triple galop, Alex Lutz et Craig Daniels.
J'aimerais pouvoir passer la bague au doigt de Stéphanie autrement qu'en mini-short.
Audrey Lamy et Stéphanie Harper.
Oh, j'ai une faim de vivre, Abigail. De vivre.
Leila Bechti et Crystal Clear.
Il y a deux choses que je sais reconnaître dans la vie. Les menteurs et les faux sacs à main.
Et retrouvez aussi Guillaume Gallienne, Karine Viard, Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, François Civil, Isia Higelin, Bruno Sanchez. Dans la vengeance au triple galop. La nouvelle création originale le 4 octobre seulement sur Canal+.
Leclerc.
Eh ben, des pâtes et des pâtes.
Exactement. Le lot de 3 paquets de 500 grammes de pâtes Panzani avec 34% de réduction immédiate à 1,78€ seulement.
1,19€ le kilo? Bien vu. Enfin, 3 paquets quand même.
Ah ben, c'est le minimum quand t'as des ados. Attends, souviens-toi quand t'avais 15 ans.
Ah ouais, t'as raison. Non, et prends-en deux, là.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 28 septembre au 9 octobre, modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Si je vous dis 10% de remise supplémentaire sur les produits déjà en promotion chez But, vous me croyez?
Oui, en ce moment chez But, bénéficiez de 10% de remise supplémentaire sur les produits en promotion. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 4 octobre seulement.
Oh, cette année, c'est un anniversaire de folie!
Voir produits concernés et conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Vous avez remarqué? Il suffit parfois d'un bon café pour se lever du bon pied. Eh bien, pendant la quinzaine commerçante, jusqu'au 9 octobre dans les magasins U, vous bénéficiez de 34% de remise immédiate sur toute la gamme carte noire. Oui, 34% de remise immédiate sur toute la gamme de café carte noire. Alors, ça met pas de bonne humeur, ça?
U. Commerçant autrement.
Hors promotion en cours, voir conditions sur courseu.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end CNews Europe 1. Prenez le temps de vous informer tranquillement avec toute l'équipe. Au menu, avec le docteur Brigitte Millon, on parlera du stress et de ses risques pour la santé. On retrouvera Céline Géraud pour nous parler des NFT. Vous ne savez pas ce que c'est normal, mais c'est la tendance de l'année, c'est virtuel et ça pèse des milliards. Et puis ne manquez pas votre rendez-vous avec Jean-Pierre Elkabbach, 8h40, sur un sujet essentiel en ce moment, l'énergie. Il recevra Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Elisa Lukavski est toujours avec nous. Merci Elisa, ce sera le JT dans un instant, mais je voudrais quand même présenter avec nous en plateau Guillaume Bigot et Éric de Montpion. Générique.
Denis, bonjour.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h. « J'en profite pour corriger Guillaume Bigot et Denis de Montpion. On va vous retrouver dans quelques instants, messieurs. Avec vous, on parlera de cette percée fracassante d'Éric Zemmour à 15% des intentions de vote selon un dernier sondage. Il est toujours à la une de l'actualité. Il n'est pas candidat, mais double son score en deux semaines en meeting à Lille aujourd'hui. Éric Zemmour n'a jamais autant bousculé la droite et l'extrême droite. Les prix du gaz et de l'électricité s'envolent. Les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. C'est même leur préoccupation numéro un. Vous verrez qu'il existe des solutions pour faire baisser les factures. Nous vous emmènerons à Rennes. Et puis, c'est une grande première. Des femmes vont participer aujourd'hui à une course cycliste mythique. Elles s'apprêtent à affronter l'enfer du Nord, les pavés de Paris-Roubaix. Reportage à suivre. Et la politique pour commencer, bien sûr, Elisa.
Oui, on commence avec un sondage. Les Échos, CNews, quels sont les enjeux de la prochaine présidentielle pour les Français? Sans surprise, c'est le pouvoir d'achat qui arrive en tête des préoccupations pour près d'un Français sur deux. La sécurité et la protection sociale interpellent 46 et 43% d'entre vous. Dernier thème des préoccupations dans ce sondage, la lutte contre le terrorisme à 35%. Le pouvoir d'achat en tête donc des préoccupations avant cette présidentielle est justement devant l'envolée des prix du gaz et malgré la mise en place du bouclier tarifaire, les consommateurs s'interrogent sur les solutions pour diminuer leurs factures. À Rennes, une start-up accompagne ceux qui veulent changer de fournisseur. Reportage Michaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
J'ai gagné 344 euros juste sur, en une année pleine sur un contrat de gaz. En changeant d'opérateur.
Moins 344 euros pour chauffer sa maison de 150 mètres carrés et l'alimenter en eau chaude. Pour cela, Xavier a simplement fait passer sa facture de gaz à la moulinette d'un algorithme créé par une start-up rennaise. Bertrand German est le fondateur de Sherpa.
Vous avez 42 opérateurs, donc une concurrence assez féroce qui existe. Cette technologie qu'on a développée, elle vient mettre en adéquation qui vous êtes, ce que vous payez avec ce qui existe. Et donc identifier ce qui aurait mieux pour vous.
Avec l'envolée du prix du gaz, la petite société qui revendique déjà 3000 utilisateurs croule sous les sollicitations. Changer de fournisseur ne coûte rien, mais pour Jean-Yves Bouchet de l'association de consommateurs CLCV, le gain reste la plupart du temps limité.
C'est notre retour d'expérience mené depuis plusieurs années. On a souvent vérifié que le gain sur la globalité de la facture était de l'ordre de 6%. Ça peut être un peu plus sur le gaz en ce moment, mais guère plus.
Dans sa cuisine, Xavier est devenu un adepte du nomadisme énergétique. En 6 mois, il a changé 3 fois de fournisseur d'électricité, cette fois toujours avec Sherpa. Comme un courtier, la start-up se rémunère auprès des opérateurs.
Dans l'actualité également, cette nouvelle manifestation anti-crack prévue aujourd'hui à Paris.
Et le ras-le-bol des riverains continue. Les habitants du nord-est parisien réunis au sein des collectifs anti-crack se mobilisent ce samedi pour alerter sur leur situation et celle des consommateurs qui sont laissés en errance. Pour beaucoup, leur quotidien est devenu insupportable. Ils se donnent rendez-vous à 14h, place Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris.
On parle de sport aussi, bien sûr, avec du football, la 9e journée de Ligue 1.
Recevait Reims, les Sang et Or qui s'imposent 2-0. Ouverture du score sur pénalty d'Arnaud Kalimuendo après l'expulsion du Rémois Hugo Ekitike juste avant la mi-temps. L'attaquant lensois Kalimuendo qui s'offre le premier de sa carrière en Ligue 1 quelques minutes plus tard. Avec ce succès, Lens conforte sa deuxième place de dauphin du PSG, les Sang et Or qui pointent à 6 points du leader. Et puis 2 matchs sont au programme ce samedi à suivre sur nos antennes, sur Canal Plus décalé.
Et puis du cyclisme, on le disait en titre avec Paris-Roubaix ce week-end et pour la première fois, des femmes qui vont participer à cette épreuve.
Au programme, 116 kilomètres, dont près de 30 sur des secteurs pavés. C'est à 13h35 cet après-midi que s'élancera pour la première fois de l'histoire cette grande classique, le peloton féminin. Donc les précisions de Simon Persitz et Marion Delpech.
La parité sur les pavés, c'est pour cette année, 2021, et voilà que le Paris-Roubaix nous offre une première édition féminine avec les coureuses Audrey Cordon-Rago et Marie Lenette.
On arrive avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'excitation, c'est un petit peu un mélange de sentiments qui prédominent 2 jours avant la course.
C'est incroyable, à chaque fois j'ai regardé cette course à la télé et j'ai fait quelques secteurs... Il y a 2-3 ans, mais jamais j'aurais pu me dire qu'on aura notre course un jour. Et là, ça y est, c'est le moment. Donc, c'est très excitant.
Au programme ce samedi, un parcours de plus de 116 km entre Denain et le Vélodrome de Roubaix, avec notamment 17 secteurs pavés. Un tracé ardu qui ne passera toutefois pas par la mythique trouée d'Arambert. Les coureuses emprunteront seulement 85 km de l'itinéraire masculin. Mais attention, ce n'est pas pour autant un Paris-Roubaix au rabais, comme le souligne le responsable sport Franck Perk.
C'est quelque chose de très difficile. Il va y avoir vraiment du sport et l'exigence athlétique que réclame cette épreuve est au rendez-vous. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une course et elle sera très très difficile. Oui.
Avec de la pluie attendue sur la région ce week-end, les participantes semblent bien parties pour expérimenter l'enfer du Nord.
Et cette course, ce Paris-Roubaix féminin, devait avoir lieu hein, l'automne 2020, puis au printemps 2021. Il a été forcément repoussé à cause de la crise sanitaire.
Et puis un anniversaire que ne vont pas manquer les nombreux fans dont je soupçonne que vous faites partie, Elisa.
Évidemment, comment ne pas en faire partie? On écoute cette voix qu'on adore, cette mélodie. An Englishman in New York, on reconnaît tous évidemment Sting, hein, le leader du groupe britannique Police. Il fête aujourd'hui ses 70 ans. Il est auteur, compositeur, interprète et musicien. Continue son incroyable carrière, Sting, il sort le 19 novembre un prochain album qui s'appelle The Bridge. Et je vois que ça fait danser les invités.
Oui, Denis de Montpion et Guillaume Bigot, effectivement, sont dans le rythme de Sting ce matin, auquel vous souhaitez, j'imagine, un très joyeux anniversaire. On a tous aimé écouter Sting.
Et tous des souvenirs sur Roxane.
Et beaucoup, beaucoup, effectivement, de souvenirs. Merci pour ce petit clin d'œil dans le rétroviseur. Elisa, on vous retrouvera tout à l'heure. Pour l'heure, on jette un coup d'œil sur le temps de notre samedi avec vous, Claire Delorme, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas folichon.
Exactement, un temps vraiment à rester chez soi, surtout pour le quart nord-ouest. 5 départements sont actuellement placés en vigilance orange, pluie, inondation. Des cumuls à surveiller, environ 6 litres d'eau au mètre carré en quelques heures, donc ce n'est pas rien. Dans le détail, pour cet après-midi, cette perturbation, elle va surtout investir une bonne partie des terres avec en prime du vent qui va souffler fort. 80 km/h dans les terres et plus de 100-110 km/h le long du littoral. Par contre, l'est du pays pourra profiter d'un ciel beaucoup plus lumineux. Et donc, pour les températures, il fera entre 6 et 17 degrés en matinée. Et dans l'après-midi, par contre, on sera au-dessus des normales de saison avec 19 degrés pour la capitale, 23 degrés pour Strasbourg et la maximale de 26 degrés, que ce soit pour la vallée de la Garonne et pour la Corse.
Merci beaucoup, Claire.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
8h07, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette matinale week-end CNews Europe 1. Le débat de ce matin avec Guillaume Bigot, politologue, et Denis de Montpion, éditorialiste. La semaine se termine comme elle a commencé, avec Éric Zemmour, en trombe. Il est en train de passer de phénomène médiatique au troisième homme de la course à la présidentielle. En tout cas, c'est selon un dernier sondage pour France Info et Le Parisien aujourd'hui en France. Zemmour crédité de 15% des intentions de vote devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La droite aux abonnés absents, Marine Le Pen talonnée. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, je vais commencer par vous, Guillaume, dans ce sondage?
En fait, rien, pour être honnête.
Vous n'êtes pas surpris ?
Non, je ne suis pas surpris du tout parce que, en fait, il y a une double tentative de fracturation. Il y a la fracturation de l'électorat de Marine Le Pen et il y a la fracturation de l'électorat LR. Et donc, à partir du moment où LR ne s'est pas trouvé une assiette naturelle, un candidat naturel, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que LR, c'est à l'origine quand même, ça sort d'une alliance entre le RPR et l'UDF. Le RPR, donc un parti, on va dire, de droite dite bonapartiste, et l'UDF qui est un parti de droite orléaniste. Donc un parti un peu plus interventionniste et souverainiste, et un parti ou une tendance un peu plus européiste et centriste. Et en fait, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ce mix-là n'a jamais vraiment fonctionné. Et LR, l'UMP, qui est devenu ensuite LR, est devenu vraiment un parti extrêmement centriste et européiste. Et tous les candidats qui se présentent, sauf Laurent Wauquiez qui finalement ne s'est pas présenté, représente une tendance qui n'est pas nécessairement majoritaire à l'intérieur du parti, je ne sais pas, mais en tout cas pour les gens qui votent LR. On l'a bien vu lors des dernières présidentielles, c'est François Fillon. Et François Fillon, il ne représentait pas la ligne UDF, il représentait plutôt le vieux courant historique du RPR. Donc finalement, Éric Zemmour, pour l'instant, est le seul à représenter ce courant. Donc c'est assez normal qu'il arrive à siphonner une partie des voix de LR.
Denis de Montpion, il double quand même son score. En tout cas, on rappelle évidemment que c'est pour l'instant uniquement dans les sondages. Mais doubler son score en 2 semaines, ça vous ne surprend pas ?
Écoutez, non, ce qui est intéressant dans le phénomène Zemmour, c'est que en temps de campagne pré-campagne présidentielle, parce que évidemment LR n'a pas encore son candidat officiel.
Et Éric Zemmour n'est pas candidat.
Et Éric Zemmour n'est pas candidat. Donc, il est... Alors, bon, il se trouve qu'Éric Zemmour a publié son livre « La France ne va pas si mal », etc. Et il y avait une actualité autour de lui. Mais généralement, pour les présidentielles, pour éviter de lasser le public, on a souvent assisté à ça, l'émergence d'un troisième homme. Ça a été le cas notamment en 2007, quand, vous savez, il y a le duel Sarkozy-Royal qui s'est installé très tôt. Et d'ailleurs, 6 mois avant, les gens étaient un peu là, des débats, des discussions, des commentaires sur les deux finalistes, finalement. Et donc, François Bayrou a été un petit peu propulsé comme ça dans la campagne. Et il s'est d'ailleurs imposé, puisqu'au final, il a fini, je crois, avec 17%, ce qui était un score très, très honorable. Mais bon, aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure, puisque la gauche est totalement vitrifiée, quoi. Elle est vraiment...
Explosée façon puzzle.
Oui, atomisée, comme... puisque, oui. Bon, il n'y a pas véritablement de leader qui s'impose. La droite classique, c'est-à-dire les Républicains, ils se marchent tous sur les pieds. Là encore, il n'y en a pas un qui s'impose. Bon, Xavier Bertrand a voulu faire cavalier seul, mais on voit bien qu'il n'arrive pas véritablement à s'imposer. Et donc, c'est un boulevard pour...
Mais donc, ce que vous êtes en train...
Dans un appareil, ni quoi que ce soit. Et il lance dans le débat des sujets que ni la gauche ni la droite n'osent aborder, et que Marine Le Pen... Bon, elle en avait fait un petit peu son fonds de commerce, l'immigration, etc. Bon, ce qu'ils appellent tous le grand remplacement. Même j'ai vu que Bardella, Jordan Bardella, trouvait que Éric Zemmour y allait un peu fort. Donc c'est un peu paradoxal. Mais néanmoins, il parle de sujets d'actualité qui préoccupent les Français, parce que il y a...
Même si c'est le pouvoir d'achat qui revient finalement en tête des préoccupations des Français devant la sécurité et l'immigration, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets cruciaux. Guillaume Bigot.
Denis Mampion a raison de dire qu'il y a toujours un troisième homme ou une troisième femme, en tout cas quelqu'un qui vient perturber le jeu et que c'est attendu. Mais une autre règle, c'est que en général, les duels attendus de second tour, prévus un an avant la présidentielle, ne se réalisent jamais. Jamais. Voilà, donc M. Balladur devait se retrouver au deuxième tour, il ne s'est pas retrouvé au deuxième tour.
Vous pensez à Jean-Pierre Chevènement, Alain Juppé.
Alors, Jean-Pierre Chevènement était justement le troisième homme, a été comme François Bayrou. Non, mais en fait, il y a des duels qui sont programmés, en général, ce n'est pas le duel qui se réalise. Donc là, je pense qu'on est dans ce scénario-là. Deuxièmement, vous avez un autre troisième homme qui est arrivé en 2017, qui s'appelle Emmanuel Macron. Et je pense que si on regarde un instant, on a un véritable parallélisme entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'on a finalement un système politique qui est installé, qui est en place, avec des partis ex de gouvernement qui, au fur et à mesure des décennies, sont devenus maintenant des coquilles vides. Enfin, le PS est un navire qui prend l'eau, LR, on voit bien qu'ils n'arrivent même pas à avoir des candidats de chez eux. En fait, les gens qu'ils vont adouber sont des candidats qui ont été obligés de sortir de LR pour éviter le discrédit des partis. Donc c'est quand même une situation très inédite. Dans ce contexte-là, Emmanuel Macron a surgi comme un perturbateur du jeu. Et sa force a été de faire croire, disons, au corps électoral dans son ensemble, en particulier aux Français les plus modestes, que lui allait porter une rupture radicale. Et évidemment, il a dit au microcosme, à la nomenclature, au parti, disons, installé, ne vous inquiétez pas, je vais recycler vos places, et puis je ne vais pas bouleverser le jeu, je vais simplement, il faut que tout change pour que rien ne change, je vais adopter un discours et un ton disruptif, je vais casser en apparence le jeu politique, mais en fait, je vais maintenir le statu quo.
Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Alors, écoutez, je ne sais pas s'il y a eu autant de calculs que ça de la part d'Emmanuel Macron. Parce que
vrai qu'il est dans l'impro, ce monsieur.
Quand il est arrivé dans le jeu politique, on a vu comment il avait constitué son parti. Hein. C'était sur Internet, on s'inscrivait, il y avait un tri qui était fait sur les candidats possibles. Et en réalité, il y a eu effectivement une sorte de recyclage, notamment de nombreux membres du Parti Socialiste,
et de LR,
la bande, de la bande de Dominique Strauss-Kahn, qui avait été la grande figure qu'on voyait comme le sauveur de l'économie mondiale et de la France.
Ancien patron du FMI.
Exactement. Oui, et tout ça s'est quand même lamentablement effondré. Et donc, après, ça a été le sauf-qui-peut pour des socialistes qui ont bien vu que...
Et pour LR à nouveau.
Oui, mais
bien sûr, regardez qui sont les caciques de la Macronie.
Bien sûr, mais quand même, de manière... Bon, vous avez...
Il a vidé LR de l'intérieur, enfin.
Bruno Le Maire n'était pas non plus une
figure... On se demande pour qui M. Sarkozy va appeler à voter. Mais enfin, voyez bien qu'il y a quelque chose. Je pense que le parallélisme est très fort. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sortent de nulle part, qui ne sont pas dans le jeu politique, qui n'en ont pas les codes, qui bouleversent les codes. Et ça, ça plaît dans une ère de populisme.
Mais quand vous dites le parallélisme, Emmanuel Macron a bouleversé les codes. Il est devenu président.
Exactement.
Est-ce que vous voyez le même parallèle pour Éric Zemmour ? Est-ce que ce que vous dites, c'est que, après tout, pourquoi ne deviendrait-il pas président ?
L'avenir n'est pas écrit. Mais je pense que le parallèle, je voudrais aller jusqu'au bout, parce que c'est un parallèle inversé tout de même. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, finalement, a dit à la population, un peu en la trompant, on va faire une révolution, et il a poursuivi la politique qui est enclenchée depuis 30 ou 40 ans. On peut décrire, hein, c'est-à-dire on ne touche pas ce qu'on appelle l'état de droit, un peu contre la démocratie, donc ça on ne va pas bouger. On ne va pas bouger la construction européenne, cap sur la construction européenne, et l'économie est globalement verrouillée, modulo la pandémie évidemment. Et troisièmement, on ne va pas bouger la politique migratoire par exemple. Donc il a maintenu ce cap. Mais il a dit à la population, vous allez voir, tout va changer. Eh bien, Éric Zemmour fait quelque chose de très différent. Il va voir finalement le microcosme. Il représente une France qui est quand même plus bourgeoise, plus sophistiquée, plus capée et structurée intellectuellement. Il peut aller voir les grands patrons en leur disant « grâce à moi, rien ne va bouger, je ne suis pas Marine Le Pen, je ne vais pas mettre le bazar, si vous voulez, je ne suis pas Mélenchon, je ne vais pas mettre le bazar ». Et il dit à la population « mais avec moi, tout va changer ». Et je pense qu'on joue vraiment à front renversé. C'est-à-dire qu'en réalité, il va probablement tenir sa promesse à l'égard du peuple et probablement décevoir ses sponsors.
À ce stade, il n'a quand même pas un programme politique très étoffé.
Étoffé que celui de M. Macron.
C'est-à-dire que il est très bon, c'est incontestable, mais pour ce qui est d'apporter des solutions... Et alors, la rupture proposée par Emmanuel Macron, mais le coup de la rupture, Nicolas Sarkozy nous l'avait fait déjà aussi. Et... en réalité, les Français attendent toujours une espèce de grand soir, en effet. Et puis, quand il s'agit de voter et qu'on retrouve un candidat opposé à Marine Le Pen, là, c'est le grand frisson. Et finalement, le cap n'est pas franchi parce qu'on a peur du saut dans le vide.
Merci beaucoup à vous, Guillaume Bigot et Denis de Montpion. On rappelle que c'est un sondage, qu'on est encore à 7 mois de la présidentielle et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Merci.
L'avenir n'est jamais écrit.
Merci à tous les deux. Restez avec nous. On parle de votre santé maintenant avec Brigitte Millot.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
C'est l'heure de retrouver notre rendez-vous santé, comme tous les week-ends, avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur.
Bonjour Isabelle.
Ça va Brigitte ?
Ça va bien.
On est un peu stressé quand même en ce moment, il faut le dire. Tout le monde est stressé. On ne sait pas pourquoi.
C'est pas fini.
Ah bon, c'est vrai, c'est pas fini. Pourtant, vous nous dites que le stress, si c'est le mal du siècle, c'est pas grave, ça peut quand même être positif. J'aimerais bien savoir pourquoi.
Alors, c'est pas grave. Quand ça se chronicise, on va y revenir, c'est un peu plus ennuyeux. Mais c'est vrai que le stress, en fait, s'il n'y avait pas eu de stress, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler, toutes les deux, là. C'est un phénomène adaptatif. En fait, quand il y a un danger, immédiatement, mettons, on entend un bruit, il y a un danger, tout de suite, notre cerveau se met à sécréter les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, c'est une espèce d'hormone guerrière qui va mettre tous vos sens en éveil. Les pupilles vont se dilater pour pouvoir mieux voir. Les narines vont se dilater, sentir s'il y a du feu ou quelque chose.
C'est l'instinct animal.
Voilà, c'est vraiment très, très bien fait. Les bronches, elles vont se dilater, s'ouvrir aussi. Pourquoi ? Pour respirer plus d'air, pour apporter plus d'oxygène à toutes nos cellules. Le cœur va s'accélérer, toujours pareil, pour apporter du sang à tous nos muscles. Le cortisol, lui, mais c'est tellement bien fait le corps humain. Le cortisol, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller puiser dans les réserves et aller prendre dans la graisse, transformer ce qu'il y a de gras en glucose. Pourquoi ? Pourquoi le glucose ? Parce que le carburant du cerveau, c'est le glucose. Et il faut que notre cerveau soit en permanence, puisse prendre une décision très vite, et la bonne décision, évidemment. Donc voilà, un truc qui est tellement bien fait.
C'est impressionnant, c'est une mécanique très précise.
Mais c'est même au-delà de tout ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez besoin de partir en courant, eh bien, l'énergie, elle va aller dans vos membres inférieurs. Si vous avez besoin de vous accrocher quelque part ou de prendre des seaux pour éteindre un feu, eh bien, votre énergie, elle va aller dans les membres supérieurs. C'est fou. C'est d'ailleurs une des raisons aussi, le stress, qui fait que l'amant court plus vite que le mari qui lui court après parce qu'il est plus stressé. Mais oui, mais c'est comme ça.
On a l'impression que c'est formidable, hein, le stress.
Alors, attention, c'est utile, nécessaire, pas que dans ces conditions-là. Aussi, s'il n'y a pas de stress, la voiture devant vous, pile. Si vous ne réagissez pas en un dixième de seconde, vous lui rentrez dedans. Donc, il faut du stress. Avant un examen, avant une compétition sportive. Enfin, vous voyez, le stress, c'est positif quand, après le stress, on peut libérer de l'énergie. C'est ce que les anglo-saxons appellent « fight or flight », c'est-à-dire soit se battre après un stress, soit s'en aller en courant.
Voilà. Comme notre amant de tout à l'heure.
Mais où ça devient mauvais, le stress, c'est quand ça se chronicise et quand on ne peut pas, justement, libérer cette énergie. Donc, en fait, ça vous rumine, ça vous ronge. Et là, ça devient mauvais. C'est ce qu'on appelle le stress négatif, celui dont on parle régulièrement, avec tout son cortège de symptômes.
Alors, quels sont ces symptômes ?
Alors, vous savez, comme le cœur s'accélère, vous avez des palpitations, des problèmes cardiaques. Il y a la fameuse boule au ventre que tout le monde connaît. Notamment chez les enfants, il faut bien y penser. Quand un enfant se plaint du ventre, notamment ceux qui ont la phobie scolaire, vous savez, la peur d'aller à l'école, là, ça peut être vraiment le mal de ventre. Après, il y a d'autres symptômes. Mal au dos, c'est souvent lié au stress. Insomnie, anxiété. Et puis, ça peut aller jusqu'au burn-out que tout le monde connaît maintenant, malheureusement.
Et on ressent bien cette boule au ventre que vous évoquez. Et certains disent que ça peut faire grossir. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, ça peut faire les deux. Ou grossir, ou maigrir. Alors, maigrir quand, en fait, il est continu, le stress, puisqu'on puise en permanence dans nos réserves. Et grossir quand, en fait, il est, de temps en temps, on est stressé, mais de temps en temps, on ne l'est pas. Donc, en fait, une fois qu'on a puisé dans nos réserves, il y a un petit signal qui va au cerveau qui dit « j'ai faim, là ». Il faut remplir à nouveau les réserves. Et là, on a tendance à prendre la bedaine de la cinquantaine, là, du stress. Donc là, il faut faire attention.
Et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors surtout, ce qu'il faut, c'est hiérarchiser les agents stressants. Il ne faut pas s'angoisser dans les embouteillages, il ne faut pas se stresser. Ou quand votre coiffeur vous a coupé les cheveux trop courts.
Respirez, soyez zen, tout va bien se passer.
Oui, relaxation, méditation, yoga. Mais surtout, en parler et ne jamais laisser le stress s'installer et prendre du temps pour soi aussi.
Merci beaucoup Brigitte, ça va beaucoup mieux en le disant.
Oui.
On se retrouve demain.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans notre matinale week-end CNews et Europe 1. Il est 8h30, on fait le tour de l'actualité avec vous, Elisa Lukavski. On parle de politique pour commencer.
Et oui, Éric Zemmour qui assure la promotion de son livre « La France n'a pas été hier dans les Hauts-de-France » à Valenciennes. L'écrivain et polémiste, toujours pas déclaré candidat à la prochaine présidentielle, est attendu à Lille ce samedi. Les précisions de notre envoyé spécial Gauthier Lebret, accompagné de Sacha Robin.
Éric Zemmour continue son tour de France après le sud avec Toulon et Nice. Le voilà dans le nord, à Lille, pour une nouvelle séance de dédicace cet après-midi qui pourrait rapidement se transformer en nouveau meeting politique. Il va prendre la parole pendant une heure et demie, échanger avec ses sympathisants et puis bien sûr leur dédicacer son nouvel ouvrage « La France n'a pas dit son dernier mot ». Éric Zemmour qui était hier du côté de Valenciennes pour échanger avec 300 chefs d'entreprise. Certains de ces chefs d'entreprise nous ont confié à la sortie qu'ils avaient le sentiment qu'Éric Zemmour allait bientôt se déclarer à la présidentielle. Et puis c'était l'occasion pour le polémiste de discuter économie, de prouver qu'il peut parler d'autre chose que d'immigration et de grand remplacement. Et ici, à Lille, il va monter en puissance puisqu'il y aura encore plus de monde qu'à Toulon et à Nice. 1500 personnes sont attendues alors qu'Éric Zemmour confirme sa percée dans les sondages. Dans un nouveau sondage, il est devant le candidat des Républicains.
Une nouvelle manifestation anti-crack est prévue ce samedi à Paris. Le ras-le-bol des riverains continue. Les habitants qui sont réunis au sein de collectifs anti-crack se mobilisent pour alerter sur leur situation et celle des consommateurs laissés en errance. Mais il n'y a pas que dans le nord-est parisien que le crack fait des ravages. Ces scènes se passent également dans le centre historique de Bordeaux et notamment dans le quartier Saint-Paul. Écoutez ce policier bordelais qui nous parle de cette spirale infernale.
On attend des renforts supplémentaires en début d'année prochaine qui nous aideront aussi grandement, mais c'est compliqué. Ils sont interpellés, mais ils sont remis dehors et c'est toujours un éternel recommencement.
Place maintenant à ce sondage pour Les Échos et CNews. Quels sont les enjeux de la prochaine présidentielle pour les Français? Et sans surprise, c'est le pouvoir d'achat qui arrive en tête des préoccupations pour près d'un Français sur deux. La sécurité et la protection sociale interpellent 46 et 43% d'entre vous. Dernier thème des préoccupations dans ce sondage, la lutte contre le terrorisme à 35%. La Covid, et alors qu'aux États-Unis, la Covid a fait justement 700 000 morts, il y aura peut-être bientôt un médicament sur le marché pour réduire les risques d'hospitalisation. Le laboratoire américain Merck va demander l'autorisation de commercialiser cette pilule de molnupiravir. C'est le nom de ce médicament. Et puis la 28e édition d'Octobre Rose a commencé hier, début d'un mois d'événements dans toute la France pour prévenir contre les cancers du sein. Plus de 58 000 cas, nouveaux cas sont décelés chaque année en France. Et c'est une femme sur 8 qui risque de développer ce type de cancer au cours de sa vie, d'où l'importance de se faire dépister le plus tôt possible.
Merci beaucoup Elisa Lukavski pour ce nouveau tour complet de l'actualité et puis peut-être cet espoir avec ce médicament qui pourrait bientôt être commercialisé. On a le plaisir de retrouver maintenant Céline Géraud. C'est chouette de vous voir.
Je suis ravie d'être là. Bonjour Isabelle. Chef
du service Société et Culture d'Europe 1. Vous nous parlez du phénomène numérique de l'année, une technologie qui bouleverse complètement le marché de l'art et du divertissement. Ça s'appelle les NFT. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Alors NFT, ça veut dire non-fungible token. Littéralement, jeton non-fungible. C'est pour faire simple, c'est un certificat d'authenticité que vous achetez pour des contenus en ligne, type images, animation, et même des clips. Booba, par exemple, vient d'annoncer que son prochain single, intitulé TN, sera disponible exclusivement et uniquement en NFT. Et c'est le premier rappeur français à faire son entrée dans ce marché complètement nouveau. Et pour écouter son morceau, eh bien, les fans devront acquérir un certificat d'authenticité en NFT et justement avoir ce certificat de propriété. Je précise que ces objets numériques sont disponibles exclusivement aux enchères et les transactions se font uniquement en crypto-monnaie.
Donc ce que vous nous dites là Céline, c'est que l'univers de l'art n'est plus simplement réservé aux collectionneurs, aux marchands d'art qui arpentent les galeries, les salles de vente, c'est pour tout le monde ou presque.
Alors oui, c'est de l'art. Si vous considérez par exemple que ce CryptoPunk est une œuvre d'art, oui. Si pour vous, spéculer sur la rareté numérique d'un gif comme une grenouille en pâte à modeler qui se trémousse, regardez, a autant de sens qu'enchérir sur un tableau de Banksy ou un Caravage. Ce qui est sûr, c'est que le marché traditionnel va devoir cohabiter avec ce marché virtuel et c'est une véritable révolution.
Alors c'est une révolution et beaucoup de sous également parce que les NFT, ça représente un marché de près de 6,5 milliards d'euros, marché donc qui a franchi un cap symbolique. Là.
Et quel symbole! Imaginez, une première vente aux enchères en NFT a été organisée au sein de la célèbre maison Christie's, l'original de l'œuvre numérique de First Day de l'artiste Beeple, il est américain, s'est vendu pour 60 millions d'euros. À titre d'information, les enchères avaient débuté à 100 euros. C'est une vente record qui, évidemment, a fait l'effet d'une bombe dans ce segment plutôt confidentiel. Résultat, ces 6 derniers mois, une nouvelle génération de collectionneurs et d'investisseurs a émergé. Leur credo, accumuler et échanger ce crypto-art sans aucune limite. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Une carte virtuelle unique du footballeur Cristiano Ronaldo, 245 000 euros. Elle est virtuelle, cette carte.
Mais on la voit que sur notre ordinateur,
voilà,
si on l'achète.
Ça. Vous ne la possédez pas, vous ne l'avez pas en main. Une image virale d'un chat chevauchant un arc-en-ciel dans l'espace, c'est très connu pour les fans d'art numérique. Nyan Cat, c'est son autre code, 420 000 euros.
Mais si on les voit en images, en cherchant sur Internet, qu'est-ce que ça change finalement?
Eh bien rien, vous avez un acte de propriété.
D'accord.
Et c'est ça qui est un peu absurde. Ou encore, tiens, ce premier tweet du fondateur de Twitter, justement, Jack Dorsey, qui s'est adjugé pour 2,5 millions d'euros. Tout ça pourquoi? Eh bien, vous le disiez, les crypto-geeks du NFT s'offrent en fait un acte de propriété unique, complètement virtuel. Mais rien n'empêche les copies. Isabelle, c'est un peu comme si vous aviez l'original de la Joconde dans votre disque dur, mais que rien n'empêche, eh bien, finalement, de faire des copies, d'acheter un t-shirt, un mug dans une boutique de souvenirs juste à côté.
Merci beaucoup Céline pour ces précisions sur les NFT. Je suis sûre qu'on ne manquera pas d'en reparler prochainement parce que ça attire à l'attention. Dans quelques instants, vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach avec un éclairage nécessaire sur l'énergie. Son invité, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour à tous. Les tarifs du gaz et de l'électricité augmentent en ce moment. Nous sommes entrés dans une crise durable de l'énergie en France. Bonjour Valérie Faudon, merci Bonjour. D'être avec nous. Bienvenue. Merci. Vous présidez la Société française d'énergie nucléaire, mais vous avez une vision globale pour expliquer ce qui nous arrive. Est-ce que nous sommes en train de vivre un choc du gaz, j'ai envie de dire un choc gazier ?
Absolument, qui est dû à une reprise très forte au niveau mondial. Et donc la demande est supérieure à l'offre de gaz, et en particulier est tirée par une très forte demande de gaz des pays asiatiques.
Pourquoi asiatique seulement ?
Parce que la Chine a redémarré, hein, ses usines ont redémarré. Vous savez, la Chine, c'est l'usine du monde, donc elle a besoin de beaucoup d'énergie.
Mais pourquoi cet engouement général ?
Alors, en fait, on a quelque chose qui est mal connu par les Français, parce qu'en France, on fait l'électricité à 90% avec de l'énergie nucléaire et puis avec des renouvelables. Mais à peu près un quart de l'électricité européenne est faite avec des centrales à gaz. Et avec la transition énergétique qu'on connaît, en fait, cette part, elle est amenée à augmenter. Alors pourquoi ? Je prends par exemple l'exemple de l'Allemagne, qui est en train de finir de fermer ses centrales nucléaires. En même temps, ils ont construit, comme vous le savez, un grand gazoduc qui doit leur permettre d'avoir plus de gaz de la part des Russes pour pouvoir justement alimenter des futures centrales à gaz.
C'est-à-dire qu'on dépend de... du gaz et du pipeline de Vladimir Poutine.
Absolument. Et puis, il y a aussi une certaine hypocrisie à dire notre stratégie, c'est le 100% renouvelable et puis de construire un pipeline pour alimenter avec le gaz russe. Ça répond à un besoin très fort. C'est que dans le système électrique, l'électricité ne se stocke pas à grande échelle. Donc, à tout moment, on doit produire suffisamment d'électricité pour la consommation. Donc, quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil et qu'on ne peut pas se reposer sur les énergies renouvelables, on a besoin d'unités qui sont prêtes à démarrer et fonctionner tout le temps. Donc, en France, on a des barrages hydroélectriques et puis on a l'énergie nucléaire qui fonctionne 24 heures sur 24. Mais en Allemagne, s'ils ferment leur nucléaire, s'ils ferment leur charbon, ils vont avoir besoin de ces unités.
Ils sont en train de fermer en Espagne.
Oui, donc en Espagne, ils vont fermer en 2035.
En Italie,
par exemple,
c'est-à-dire toute l'Europe va avoir besoin de gaz et faire monter les prix.
En Belgique, ils ont 50% de l'électricité qui vient du nucléaire et ils veulent fermer en 2025. Et la ministre, qui est une ministre écologiste, a un plan de construction de nouvelles centrales à gaz, donc très émettrices de gaz à effet de serre, avec des subventions. Donc c'est quand même un exemple de contradiction assez...
À ne pas suivre. Donc la mode aujourd'hui, c'est le charbon et le gaz, et les renouvelables, autant que possible.
Alors la mode, c'est plutôt les renouvelables et le gaz, mais en effet, là, ce qu'on voit cette semaine, c'est que le charbon redémarre. Hein. On voit par exemple en Chine, à un mois de la conférence pour le climat qui doit se dérouler à Glasgow, à un mois, ils ont redemandé à leurs mines de produire au maximum, et ils ont aussi demandé aux centrales à charbon de produire.
Quand vous parlez du gaz, il y a le gaz qui vient de Russie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des navires méthaniers qui apportent
Absolument.
Du gaz ?
Absolument. Donc c'est souvent, c'est les États-Unis qui sont des très gros exportateurs, mais pas seulement. Mais il y a une petite ruée sur les navires méthaniers, et c'est aussi pour ça que les prix montent. Donc la Chine est le premier importateur de gaz naturel liquéfié.
Et qui prend les navires.
Et le Japon. Japon qui n'a toujours pas redémarré toutes ses centrales nucléaires. Donc depuis qu'ils ont mis à l'arrêt centrales nucléaires avant de les redémarrer, ils importent énormément de gaz.
Est-ce qu'il faut avoir des craintes si le prochain hiver est plus froid que d'habitude ?
Alors,
en France ?
Alors pour l'instant, donc, on est dans une situation de vigilance. Pour l'hiver prochain. C'est aussi pour ça, entre autres, qu'on n'a pas fermé notre dernière centrale à charbon, puisqu'il était prévu de la fermer. Je note au passage qu'on a fermé la centrale de Fessenheim, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, mais qu'on a fermé, on n'a toujours pas fermé
toutes
nos centrales à charbon, etc. Donc, il y a une vigilance. Je pense qu'on n'est pas à risque, comme vous savez, que ça existe maintenant, des gros blackouts. C'est revenu, en fait, hein, sur le devant de la scène. On en a eu un terrible au Texas l'hiver dernier.
Et en Chine
Il y en a eu.
La Chine vit dans le noir. Elle est en train de fermer des usines,
mettre
des vagues de chômeurs.
Absolument,
dans
exactement.
Des provinces. Est-ce que ça peut nous arriver, le noir ?
Alors nous, en fait, on a quand même le nucléaire qui est là. Hein. Alors, même si on a fermé Fessenheim, on a encore 56 unités. Il faut voir qu'on doit se poser la question, parce que dans le plan de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on doit en fermer dans les années qui viennent. Donc on peut se demander, est-ce que c'est sage, alors que justement notre parc nucléaire nous protège des chocs.
Ça, c'est normal.
Vous
que
avez
vous
parlé
lisiez.
De chocs gaziers. Oui. Le parc nucléaire, il a été construit après le choc pétrolier.
Mais vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut risquer des périodes de noir en France?
Alors,
et là, l'hiver.
Alors, ce qu'on fait quand il y a des problèmes de fourniture d'électricité, c'est qu'on demande à des gros industriels de s'arrêter. On fait un petit peu ce qui a été fait en Chine.
Ça s'appelle, la nuit,
ça s'appelle l'effaçage, c'est-à-dire qu'on leur dit au pic de consommation d'électricité.
Qui et ça est, peut arriver cette année.
Et à 7 heures. Ben, c'est arrivé l'année dernière. Quand il y a des pics, l'année dernière, je crois que c'est arrivé en janvier, le 8 janvier, on a demandé à un certain nombre d'industriels de s'effacer. Mais ça, ce n'est pas compatible avec une politique de réindustrialisation.
Jean Castex, le Premier ministre, nous a annoncé un bouclier tarifaire jusqu'en avril. Est-ce qu'on peut dire qu'après le gel, il va y avoir le dégel, c'est-à-dire des prix qui vont être libérés et qui vont augmenter?
Alors, ça, c'est
en 2022
Ça, c'est pour le gaz. Hein. Donc, aujourd'hui, on est dans une hausse très conjoncturelle hein, sur le gaz, mais on sait qu'à long terme, il va y avoir une augmentation des prix de l'énergie et du gaz. Ça, c'est sûr, parce que c'est la réalité de la transition énergétique. Hein. C'est ça qui va se passer. Pour l'électricité, c'est un petit peu particulier. Il faut savoir qu'on est protégé contre les hausses européennes du prix de l'électricité et du gaz. Pas complètement, mais quand même beaucoup. Vous voyez, par exemple, en Espagne, ça a été multiplié par 4. Donc, ils ont dû prendre des mesures énormes.
Mais là, le gouvernement a dit 4% en janvier oui. 2022 au lieu de 10 ou 12 %. Absolument. Mais on est sûr qu'avec les besoins des consommateurs et le marché, les tarifs ne vont pas repartir à la hausse en 2022.
Alors, ce qu'on pense sur la partie électrique,
parce c'est que le
gouvernement va certainement faire un ajustement de taxes. Ce qui est mal connu là aussi et ce qui n'a pas de sens, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité qui est bas carbone, hein, qui émet très peu de gaz à effet de serre, donc, dont on va avoir besoin pour faire notre transition écologique, elle est plus taxée que le gaz, qui lui est une énergie fossile et qui émet du CO2. Donc le gouvernement doit penser non seulement maintenant, mais sur le long terme, à baisser les taxes sur les énergies dont on veut favoriser l'utilisation et augmenter les taxes, évidemment dans le temps, sur des énergies.
Il y a EDF. EDF fait apparemment son boulot, son job, et exporte de l'énergie.
Absolument.
Oui, mais si on a des besoins ou des manques, est-ce qu'on peut réduire l'exportation?
Oui, c'est-à-dire qu'à tout moment dans la journée, voilà, à tout moment dans la journée, il y a des moments où on a besoin d'importer. Hein, par exemple, en hiver à 7 heures du soir, pour le pic de la demande, assez souvent, on importe. Ce marché européen, on peut le critiquer parce qu'aujourd'hui, on a les effets du gaz sur notre électricité. Mais en fait, il nous permet beaucoup d'exporter. On est le premier exportateur d'Europe de l'Ouest. On exporte 10% de notre production. C'est-à-dire
Non, mais s'il y a une crise, oui. S'il y a une demande oui, très forte, sûr, on peut dire, eh ben, ça ne sera pas 10%, ça sera 6, 7, oui, mais, et le reste,
oui,
on garde en France.
Même, on importera. Quand on est vraiment en besoin, on importe et on diminue. On demande aux industriels de s'effacer.
Valérie Faudon, vous êtes une spécialiste. Est-ce que l'on va avoir une hausse régulière, même s'il y a des freins de la part de l'État ou du gouvernement actuel, régulière des tarifs du gaz et de l'électricité en France?
Alors, sur l'électricité, on est protégé par notre parc nucléaire. Alors, notre parc nucléaire, il produit à très bas coût. Pourquoi? Parce qu'il est déjà amorti. Donc actuellement, on est en train de prolonger, on fait des travaux sur le parc nucléaire pour pouvoir l'exploiter.
Je vous arrête parce que vous savez qu'il y a des sortes de distance ou de défiance à l'égard du nucléaire. Il y a la peur, il y a ce qu'on craint, ce sont les interruptions possibles parce qu'on manquera d'uranium. Est-ce que c'est vrai?
Non, on a 10 ans de stock d'uranium sur notre sol parce que c'est très compact, donc on peut en stocker beaucoup.
Et quand on dit que le nucléaire va coûter de plus en plus cher et les renouvelables de moins en moins cher.
Alors aujourd'hui, le parc nucléaire, c'est-à-dire prolonger notre parc nucléaire, c'est ce qu'il y a de moins cher. Non seulement en France, mais dans le monde entier. Il y a une étude sur 20 pays. Prolonger, c'est-à-dire faire des travaux pour exploiter notre parc plus longtemps, c'est l'énergie.
Oui, mais vous savez qu'en 2021, il y a 33 pays qui possèdent 415 réacteurs. Et on dit que globalement, et même en France, il y a une baisse de 10%. Je voyais les chiffres en France. En 15 ans, la France est passée de 78% à 67% d'utilisation du nucléaire et que ça, c'est en train de baisser.
Bah, on a fermé 2 réacteurs. Dont on aurait eu besoin, en fait, pour passer l'hiver. Et puis aussi, je crois que vos derniers chiffres, c'est les chiffres de 2020. C'était une année un peu exceptionnelle à cause du Covid.
Dans ces conditions, est-ce que l'on va ou on pourra atteindre le zéro CO2 en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans.
Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour atteindre... Alors, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'électricité, mais c'est que 25% de notre consommation énergétique, on consomme aujourd'hui pour à peu près 40 milliards d'euros de pétrole et de gaz. Et pour diminuer notre consommation, on va avoir besoin de notre électricité.
Est-ce que l'on va arriver à réussir la transition écologique dans ces conditions ?
Moi, j'y crois, parce qu'on a un atout extraordinaire, c'est qu'on a toute cette électricité qui peut nous permettre, par exemple, de diminuer le pétrole dans les voitures, de chauffer sans gaz ou sans fuel nos logements. Donc, c'est un atout extraordinaire qu'on a et qu'on est les seuls à avoir en Europe avec les Suédois.
Est-ce qu'il faut continuer à fermer les centrales nucléaires qui ont vieilli ?
Alors, d'abord, les centrales, elles sont rénovées. Alors, on dit que ça coûte très cher, mais en fait, vous voyez, par exemple, je regardais les prix de l'électricité, marché de gros, c'était à 200 €, alors que la rénovation, ça nous coûte quelques euros donc par mégawatt-heure. Donc, c'est pas cher, c'est vraiment un bon retour sur investissement. Et en fait, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est une nouvelle crise. Les marchés de l'énergie, c'est des crises qu'on ne peut pas prévoir. Personne n'avait écrit en début d'année qu'on allait avoir une crise du gaz au mois de septembre. Donc je pense qu'il faut être très humble et se dire on a cet outil extraordinaire qui nous protège.
Comment
on
garantit
et donc il ne faut pas le sacrifier.
Comment garantit la souveraineté énergétique de la France et les besoins des Français sans affaiblir ou sans toucher au pouvoir d'achat ?
Alors justement, en fait, ça a été notre stratégie lors du premier choc pétrolier de construire ce parc. Donc on a la chance de l'avoir, ce que d'autres pays n'ont pas. Et je pense qu'il faut vraiment miser dessus et ne pas prendre, pas prendre des paris. On n'a aucune raison de prendre des paris hasardeux. Enfin, on est dans une situation où on est face à un actif stratégique. C'est comme les masques qui... Voilà, on s'est dit qu'on aura une pandémie ou pas. On aurait dû garder nos masques. Donc là, on sait qu'on va rentrer dans des périodes de turbulence sur les marchés de l'énergie. Et c'est vraiment important de s'en protéger.
Et est-ce qu'il faut créer... Et j'ai envie de dire, et lancer sans tarder le chantier dont on parle des 6 EPR.
Absolument.
Alors qu'on sait que l'EPR de Flamanville, géant, a échoué. C'est même un scandale coûteux, impuni, avec des retards d'argent et de temps. Est-ce qu'il faut encore construire les EPR ?
Alors, on a besoin de construire, de lancer le renouvellement de notre parc nucléaire. Parce que là, pour l'instant, on peut le prolonger par des travaux. Mais à la fin des années 30, il aura 60 ans. Et en plus, on l'a construit très rapidement. Donc, tout va s'arrêter en même temps. On a besoin de reconstituer notre capacité industrielle à construire.
Est-ce qu'il est nécessaire d'inscrire aussi l'énergie au cœur de la campagne présidentielle ? De 2022. On entend des premières voix.
Je pense que l'énergie sera au cœur de la campagne et c'est très bien parce que ça permettra aux Français d'apprendre des
choses. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça montera pendant la campagne ?
Parce qu'on l'a déjà vu à la fois dans la campagne écologiste et je vois dans les débats, par exemple celui qu'il y a eu entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, c'était aussi dans la campagne. Donc je pense qu'avec l'actualité.
Et ils ont raison dans ce qu'ils disent, qu'on écoute.
Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont parfois fausses, qui sont dites sur le nucléaire dans la campagne. Et nous, on compte beaucoup, justement, pour les débats, pour que les Français puissent apprendre plus sur l'énergie.
Mais un chef d'État ou un gouvernement doit accepter l'idée, ou a l'idée, que ce sont des décisions qui sont impopulaires. Et pour appliquer ce qui va arriver en anticipant comme on le fait ce matin, je pense qu'il faut faire preuve de vision, d'audace et de courage.
Absolument, on disait que c'est un actif.
Parce que c'est impopulaire.
C'est un actif stratégique, le nucléaire. Et en fait, ce qu'on voit dans les derniers sondages et études d'opinion, il y en a encore une hier, c'est que les Français le comprennent tout à fait. Et
donc, ils aiment bien. Ils ont envie de payer plus cher.
Absolument, mais
ils
aiment bien les renouvelables, mais ils savent que c'est bien le parc nucléaire aujourd'hui qui assure notre sécurité d'approvisionnement. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans
électricité. Ils aiment les renouvelables, sauf les éoliennes. Ça, c'est autre chose.
C'est le fameux. Pas dans mon jardin. Oui.
Voilà. Merci en tout cas d'être venu, Valérie Faudon. Je laisse Isabelle Moreau pour la suite. Et demain ?
Et demain, évidemment, on se retrouvera, Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous. Vous recevrez Philippe Juvin.
Absolument. Et l'après-midi, dans Repère, Agnès Buzyn.
Et médecin et candidat à la présidentielle. Hein, pour Philippe Juvin, rendez-vous, bien sûr, c'est noté, dimanche à 8h40.
À demain matin.
Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette matinale week-end CNews Europe 1. On se donne donc tous rendez-vous demain matin, 7h pile. Et de bonne heure, de bonne humeur. Bonne journée à vous et profitez bien, surtout, de votre week-end.
La matinale week-end, CNews Europe 1.